Pendant que j'étais en face, j'étais en train de regarder le décor qui est derrière moi. Vous avez vu comme il est beau? Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est habité. Alors, je fais un clin d'œil à Vicky, là. Elle va comprendre ce que je veux dire. Regardez les petits oiseaux et les autres animaux qui sont dans le décor. Ce n'est pas un décor vide, mais il y a une population qui le remplit. Moi, j'aime bien ça. Voilà, ce n'était pas prévu dans mon discours de ce matin de vous dire ça. C'est juste une réaction un peu à chaud. Alors, je suis Marie-Christine Collas, une des responsables de cette église, et je vous salue, vous tous qui êtes sortis par ce froid ce matin. Alors, il y a 2 semaines, Manu nous a parlé du premier cadeau que Dieu veut nous faire en nous envoyant Jésus. Alors, je vois, il est là. Et vous vous rappelez ce que c'était ? Ce qu'il y avait dedans ? C'est déjà loin ? Waouh ! Alors, c'était le salut, voilà. La semaine dernière, j'étais pas là, mais on me l'a raconté, Joël a ouvert un 2e cadeau. Et lequel c'était ? La paix, voilà. Ça revient. Hein. Alors, à mon tour, je vais aller chercher un cadeau. J'espère que je ne vais pas être déçue. Parce que vous savez, ça arrive parfois. Je me rappelle quand j'habitais à Montreuil, il y a 30 ans, une de mes voisines africaines, qui s'appelait Cécile, elle était juste arrivée en France, hein, elle m'a dit ceci: j'ai acheté de la vache qui rit, mais je n'ai pas ri. Mais ne riez pas, c'est pas drôle. Vous et moi, quand vous achetez de la vache qui rit, vous achetez du fromage et vous vous attendez à trouver du fromage. Mais elle a dû voir une pub quelque part et elle a voulu acheter du rire, de la joie de vivre. Et son attente a été déçue. Elle avait beau mâcher, rien. Tenez, ça arrive fréquemment avec les enfants à Noël. Ils voient une pub d'un jouet à la télé. L'enfant joue avec ce jouet pendant que le reste de la famille, ses parents sont là, l'encouragent, le félicitent et tout le monde est heureux. Alors, votre enfant réclame le jouet. Mais quand il ouvre son paquet et commence à jouer, ses parents font autre chose. Ils ne s'occupent pas de lui. Du coup, l'enfant délaisse le jouet en question. Et pourquoi ? Ben, c'est parce que ce qu'il voulait au fond, c'était pas le jouet, c'était la joie. Il voulait l'attention de ses parents. C'était ça qu'on lui avait vendu dans la pub. Il voulait la joie et pas le jouet. Vous voyez, Cécile voulait la joie et non le fromage. Alors, il y a des cadeaux qui vont combler notre joie et d'autres non. Des cadeaux qui sont frustrants et des cadeaux qui comblent. De nombreuses personnes cherchent à être comblées dans des joies factices provoquées par l'alcool ou d'autres substituts. Mais ça ne marche pas et ça les rend encore plus amers. Alors retournons à notre cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Bon, je ne vais pas détruire le paquet, hein, mais faites-moi confiance, là il y a marqué « joie » dessus. Vous voulez le recevoir de la joie ? Eh bien, parlons-en. Ce matin, nous allons parler de la joie que Dieu veut nous donner. Et auparavant, je vous invite au fond de vous à réfléchir aux grands moments de joie que vous avez eus dans votre existence. Essayez de les classer du plus grand, du plus intense, du plus durable vers les moins importants. Voilà. Alors voici les versets d'aujourd'hui qui vont nous intéresser ce matin, car il parle de la joie. Donc sur la page suivante s'affichent les versets du jour. Sera pour toi le sujet d'une très grande joie. L'ange lui dit: réjouis-toi, Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie. Tu es heureuse. » Et Marie dit, « Mon esprit se réjouit. » L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une très grande joie. » Une multitude d'anges de l'armée céleste chantaient les louanges de Dieu. Voilà, de la joie, des occasions de se réjouir. À qui sont adressés ces versets? À des personnes très différentes, qui sont, donc, page suivante, hein, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Marie, la mère de Jésus, Élisabeth, sa cousine, et qui est aussi la mère de Jean-Baptiste, au peuple dans son ensemble, qui est représenté par les bergers, et aux anges dans le ciel. Zacharie est le premier de la série. Il y avait, à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Alors avant de poursuivre sur la joie, je vais faire une digression là, sur la date des événements. Vous savez que la naissance de Jésus ne s'est jamais produite un 25 décembre. Vous le savez tous, hein, c'est pas un scoop. C'est une date arbitraire, basée sur l'idée qu'on ne connaissait pas la vraie date. Enfin, pas si arbitraire que ça d'ailleurs. Hein. Pour la petite histoire, c'était au IVe siècle, c'était une véritable opéa que l'Église chrétienne a faite sur une fête païenne. Pof, ils ont sauté sur cette fête païenne, ils lui ont enlevé sa substance et puis ils ont mis à la place un contenu chrétien. Voilà comment ça s'est passé. Il y a peu de temps, j'ai lu un article qui m'a intéressée et qui publiait les travaux d'un théologien. Donc ce que je vais vous dire, ce n'est pas de mon invention. Qui montre que si on peut connaître la vraie date, du moins la saison de la naissance de Jésus. Et l'indice, Zacharie appartient à la classe d'Abia. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans le livre des Chroniques, au chapitre 24, on rapporte que le roi David avait organisé les prêtres descendants d'Aaron en 24 classes sacerdotales. Tous ces gens qui avaient le droit d'être prêtres donc étaient organisés en classes. Donc on hérite de sa classe, hein, de père en fils. Et ces classes officient à tour de rôle. Elles avaient été rangées dans l'année à partir du premier mois, qui est le mois de naissance, et puis il y avait les 24 comme ça. Et l'histoire qui nous intéresse se déroule au moment où c'est le tour de la classe d'Abia, d'officier, et à l'intérieur de cette classe, c'est au tour de Zacharie qui a été tiré au sort. Alors regardons le calendrier. Voilà. Dans ce tableau, nous voyons sur la première colonne les mois du calendrier hébreu. Dans la première colonne, avec leur équivalent de notre calendrier à nous, dans la colonne suivante. Dans la troisième colonne, le tour de rôle des classes sacerdotales. Vous voyez, elles sont numérotées de 1 à 24, ce qui veut dire que chaque classe a une quinzaine de jours. Hein ? Vous savez que les mois hébreux commencent toujours un jour de nouvelle lune, et donc 15 jours après, le 15e jour, c'est le jour de la pleine lune. Donc là, c'est quand même facile de se rappeler. À chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, pof, on change de classe. La classe d'Abia intervient au mois de Tammuz, deuxième quinzaine, c'est-à-dire vers fin juin, début juillet. Le problème avec ces calendriers, c'est que la correspondance est fluctuante, hein, c'est pour ça qu'on a des fêtes mobiles. Alors on va dire, pour simplifier, que l'ange a rencontré Zacharie vers le 15 du mois de Tammuz, à peu près, ça peut être quelques jours après. À partir de là, toutes les autres dates peuvent être déduites. Vous voyez, le 15... Donc le premier carré vert, Gabriel rencontre Zacharie. 6 mois après, au mois de Tevet, c'est le tour de Marie qui rencontre Gabriel. 9 mois après avoir rencontré Zacharie, eh bien, c'est la naissance de Jean. Et remarquez, ça tombe pile sur Pessa, la Pâque juive. C'est pas beau, ça ? Hein ? Comme quoi, il y a des hasards qui n'en sont pas. Et 6 mois après Jean, c'est le tour de Jésus de naître. Et regardez, pile poil, sur la fête des cabanes. Hein, 15 du mois de Tishri, donc c'est la fête des cabanes, qu'on appelle aussi la fête des huttes, ou la fête des tentes, ou la fête des tabernacles. Hein, c'est un mot qui désigne ces habitations temporaires en mode camping que les Israélites doivent faire chaque année pendant cette fête pour se rappeler le temps où ils étaient dans le désert et où ils circulaient comme ça dans l'errance, dans le désert. Et lorsque le peuple d'Israël est sorti du désert pour rentrer en terre promise, à ce moment-là, ils ont fait leur première fête des cabanes. Hein, cette fête symbolise la sortie de la marche dans le désert et l'arrivée en terre promise. C'est aussi lors de cette fête que se faisait la remise de dettes tous les 7 ans. Tous ceux qui avaient des dettes, pendant cette fête-là, la dette était effacée. Vous voyez le symbole, il est fort aussi. C'est aussi une fête pour les nations, c'est la seule fête des grandes fêtes de l'Éternel, dont il est dit que toutes les nations viendront la fêter à Jérusalem. Hein, Zacharie, chapitre 14, nous dit que il arrivera que tous ceux qui subsisteront de tous les peuples qui seront venus attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. Hein, ça, c'est quelque chose qui va arriver, donc après le retour de Jésus, une fois qu'il sera revenu et qu'il aura institué un nouveau gouvernement, nous irons tous les ans faire la fête à Jérusalem, à la fête des cabanes. Voilà, et donc nous serons aussi que quelque part, il y aura un petit peu d'anniversaire de Jésus. Donc la vraie date de la naissance de Jésus n'est pas le 25 décembre, la vraie date, c'est pendant la fête des cabanes. Donc déjà, toutes les nations célèbrent la naissance de Jésus sur toute la terre. C'est un fait, hein, chaque fois qu'il y a Noël quelque part, il y a des fêtes de Noël qui se célèbrent, même ceux qui sont obligés de le faire en cachette. Dans certains pays. Quand Jésus reviendra, on fêtera la fête des cabanes. Alors, je n'ai pas trouvé cela toute seule. Hein. La démonstration est redevable à un théologien du nom de David Soukat. Voilà, si vous êtes intéressé par le lien, je pourrais vous le donner. Revenons à notre texte. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Les pauvres. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu, c'était le tour de sa classe sacerdotale, comme on l'a dit. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie. Car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. » Donc là, on parle bien de la naissance de Jean. Zacharie apprend qu'il va être père. Ouais! Alors que sa femme Élisabeth est stérile et âgée. Il n'y croyait plus après avoir passé sa vie à prier pour cela, il avait lâché l'affaire. Tous les couples ici qui ont rencontré des problèmes de stérilité apprécieront à sa juste mesure le miracle accordé à Zacharie. Après notre mariage, Christian et moi commencions à désespérer. Deux débuts de grossesse qui s'étaient soldés tous les deux en fausse couche. Que se passait-il ? Il y avait un problème chromosomique chez moi qui faisait qu'une fois sur deux, l'œuf n'était pas viable. Nous avons vraiment appelé le Seigneur à intervenir. Et il a répondu après cela par deux grossesses normales. Il y a plusieurs cas de femmes stériles dans la Bible. Vous les connaissez, Sarah, Rebecca, qui ont eu un enfant par l'intervention du Seigneur. La joie est très grande. Voilà un enfant désiré. La joie des parents, la joie d'être parent est déjà très grande pour tout parent. On participe à la création d'un être nouveau. C'est un sentiment de joie très puissant. Et en plus, Jean est un enfant désiré qui fera la joie de ses parents. L'enfant qui vient n'est pas n'importe qui. Un futur prophète, au destin tout tracé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu s'est souvenu de son peuple. Cela faisait plus de 300 ans que Dieu n'avait suscité aucun prophète. Et on se demandait même s'il n'était pas parti en voyage. 300 ans sans nouvel écrit dans le Testament. Et voilà, ça revient. Dieu se manifeste. Passons au suivant, Marie. Alors, j'attends que tu sois sur la page, voilà. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Donc voilà plus tard, 6 mois plus tard, Gabriel qui vient voir Marie. Sa salutation n'est pas basée sur la paix, comme s'il avait dit shalom. Non, sa salutation est basée sur la joie, kaire. C'est un mot de salutation qui signifie « réjouis-toi ». Et la raison de cette joie de Marie, c'est la grâce et c'est l'appel. Dieu a accordé sa grâce à Marie et l'a choisie pour une mission spéciale, être la mère du Messie. Alors, on va tourner la page. On va lire les versets qui concernent encore Marie, lorsqu'elle est chez sa cousine Élisabeth. Donc Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pour moi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, lui il est saint. » Et ça continue, c'est ce qu'on appelle le Magnificat, cette prière. Elle exprime sa joie et sa reconnaissance dans de très belles prières. Alors Marie, c'est quoi comme joie ? Pour moi, la joie la plus intense que j'ai jamais connue, vous vous rappelez, vous, votre joie la plus intense ? Pour moi, c'est celle de ma conversion. Le plus grand jour de ma vie, c'est le jour de ma conversion. Pendant plusieurs semaines, j'ai été sur un petit nuage, rempli d'une joie immense. Ce savoir pardonné, gracié, réconcilié avec Dieu, sauvé, est une joie à nul autre pareille. Surtout après avoir beaucoup pleuré. Tous ceux qui sont ici et qui ont vécu cette grâce divine savent que j'ai raison, n'est-ce pas ? C'est pas comparable à autre chose. Si vous n'avez pas vécu cette joie profonde, alors il vous manque quelque chose d'essentiel. Demandez cette grâce à Dieu et allez vite prendre rendez-vous avec le pasteur. Une autre joie intense qui est associée est celle de l'appel, qui peut arriver en même temps ou beaucoup plus tard. L'appel à être disciple de Jésus, l'appel à un ministère précis. C'est une joie qui est mêlée du plaisir de se savoir choisi et utile à l'œuvre de Dieu, et en même temps c'est une charge. Par où commencer ? Une joie mêlée de crainte, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés en perspective, car le disciple doit porter sa croix. Mais c'est une joie tout de même, car l'appel vient confirmer que nous faisons partie des élus de Dieu. La joie de Marie, et cette joie de notre salut, vient aussi de ce que l'Esprit Saint vient habiter en nous, et nous ressentons son travail interne qui commence. Cette joie-là doit nous pousser à la reconnaissance et à la louange. Ce que fait Marie. La joie de la grâce, la joie de l'appel, la joie dans la louange. Passons à Élisabeth. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle en fut remplie. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Alors Élisabeth sent son enfant en elle bondir de joie. Elle interprète comme ça. Tu peux tourner. Elle se réjouit sincèrement de voir ce que Dieu fait dans la vie de Marie. Aucune ombre de jalousie dans ses paroles. En ce qui me concerne, être le témoin de la conversion de quelqu'un d'autre, là sous mes yeux, est la deuxième joie la plus intense que je connaisse. Après ma conversion, celle d'un autre. Quand Christian, mon futur mari, mais je ne savais pas encore que ce serait mon futur mari, c'était encore juste un copain, quand il s'est converti, j'étais bouleversée de voir ce que Dieu faisait dans sa vie. Quand j'ai vu de mes yeux d'autres conversions, j'ai encore été remplie de joie. Ce sont des enfants spirituels que Dieu donne. Voilà qui devrait nous pousser à évangéliser, pour en avoir d'autres, hein, d'autres joies comme ça, si nous recherchons la joie. Et vous savez que Jésus a dit, de même je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change, hein, une joie. Et de même Jean-Baptiste, lui qui a bondi de joie dans le ventre de sa mère, il a toujours été rempli de joie en pensant à Jésus. On lui a demandé un jour s'il n'était pas jaloux de Jésus, parce que Jésus faisait plus de disciples que lui. Hein, vous vous rappelez ? Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit, « À qui appartient la mariée ? Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie, et à présent elle est complète. » Voilà, Jean-Baptiste n'est pas jaloux. Il se réjouit, vraiment. Les anges et les bergers. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Et un peu plus loin, les bergers, après avoir vérifié, s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Alors, il y a plusieurs joies ici. Annoncer la bonne nouvelle de la venue du Messie est une source de joie. Les anges se réjouissent de ce que Dieu fait, comme ils se réjouissent chaque fois qu'un pécheur se repent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Recevoir cette nouvelle aussi est un sujet de joie. Pourquoi ? Parce que c'est une prophétie qui est attendue depuis longtemps. Les bergers se réjouissent de voir ce que Dieu fait. La présence active de Dieu est source de joie. Et puisque Dieu accomplit ses promesses, alors il va les accomplir toutes, celles qui ne sont pas encore arrivées aussi. Et en particulier, celle de son retour pour les noces de l'agneau, que nous attendons. Les bergers témoignent de cette bonne nouvelle. Le témoignage découle de cette joie et il est lui-même une source de joie. La louange, les bergers, les anges louent, c'est une source de joie parce qu'elle est centrée sur ce que Dieu fait et non sur ce que je fais. En dehors des textes que nous avons abordés, il y a encore plein de joie dans toute la Bible. Alors une petite liste non exhaustive. La vie par l'Esprit Saint. Romains 14 nous dit « Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. » Ou bien Galates 5, 22, c'est un fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. La joie est une caractéristique du chrétien. Le partage. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà, quand nous donnons avec joie. Ou bien alors, la joie dans l'épreuve. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, nous dit 1 Pierre, chapitre 5. La persécution aussi est une source de joie. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie. Eh bien, dis donc. Car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. La tribulation finale et le retour du Seigneur. La tribulation finale, les chrétiens persécutés partout dans le monde, tout ça. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau, alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Plus on nous persécute, plus on sait que le Seigneur va revenir bientôt et que nous allons nous réjouir. Alors la vraie joie, nous n'avons pas besoin de Père Noël, qui vendent cette idée fausse que la joie de Noël viendrait en consommant et en offrant toutes sortes d'objets inutiles. Nous n'avons pas besoin de marché de Noël, tout sympathique soit-il. Nous n'avons pas besoin de tonnes de nourriture qui font grossir, après on pleure parce qu'on a des kilos à perdre, et de litres d'alcool pour nous amener à être joyeux. Tout ceci n'est que la pâle copie de la vraie joie. Tout ceci est du folklore. Nous avons besoin d'une seule chose, Jésus dans ma vie, comme Sauveur et comme Seigneur, et le don du Saint-Esprit. Alors si nous partageons notre repas de Noël avec d'autres, c'est la joie, cette joie qui vient du Seigneur qui doit être partagée. C'est les témoignages, c'est la parole de Dieu. Offrons ça. Comme Zacharie, comme Marie, comme Élisabeth, comme les anges et comme les bergers, exprimons notre reconnaissance dans la louange. Voilà ce qui plaît à Dieu. La reconnaissance, c'est la seule chose que nous pouvons lui offrir et qui renforce et stimule la joie qu'il nous a donnée. Vous connaissez ce secret. Plus nous pensons aux œuvres de Dieu, plus nous comptons les bienfaits de Dieu, plus nous glorifions Dieu, plus nous louons, et plus notre joie grandit, même dans l'épreuve. Un vrai chrétien connaît la vraie joie, alors montrez-la. Et bon dimanche, à bientôt.